Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Parce qu'ils sont des mots que nous utilisons dans nos conversations de tous les jours, nous pensons savoir ce que sont le masculin et le féminin. On se demande même parfois pourquoi tout ce battage, voire on s'irrite, de ces distinguos entre sexe et genre. C'est pourquoi je veux ici tenter de proposer quelque chose d'un peu décalé et surtout sortir d'une opposition et de polémiques parfois stériles qui, une fois de plus, font disparaître une question essentielle. Quoique ce soit important de distinguer genre et sexe, à trop se centrer sur cette distinction, on ne s'interroge pas sur ce que peuvent être, dans la construction de ce qui fait notre humaine condition, le féminin et le masculin. Les notions de masculin et de féminin sont des notions difficiles à appréhender, d'abord parce que nous pensons les connaître, puis parce qu'elles sont liées à la division de l'humanité en deux sexes, ce qui fait de chacun de nous un être qui est l'un ou l'autre, c'est-à-dire un être incomplet, un être non total, ce avec quoi nous avons bien du mal. Ensuite, parce qu'elles sont prises dans les questions du genre, et enfin, parce que ce sont des catégories philosophiques que, finalement, nous connaissons fort peu comme telles. La question des genres est peut-être la plus facile à cerner. Le genre masculin et le genre féminin, ce sont les stéréotypes que nous avons plus ou moins en tête quand nous pensons à un garçon ou une fille et qui sont construits selon les époques, les cultures et les éducations. Et rien n'interdit en effet d'interroger et de déconstruire ces stéréotypes pour trouver sa façon de faire avec cette chose étrange d'être d'un sexe et non de l'autre. Or, et c'est la lutte que mènent les études de genre, il se trouve que pour un nombre encore important de personnes, il faudrait coller à ces stéréotypes. Pour le dire vite, il faudrait, pour qu'une femme soit vraiment une femme, qu'elle soit féminine, et pour qu'un homme soit vraiment un homme, qu'il soit viril. Allez savoir ce que ça veut dire. On voit en tout cas ce que ça donne outre-Atlantique. La question des sexes est plus complexe qu'elle n'y paraît. Dans l'immense majorité des cas, nous naissons avec un sexe masculin ou un sexe féminin, et peut-être ne voit-on pas ce qu'il y a à interroger là-dedans. Être sexué homme, c'est avoir un appareil génital masculin qui produit du sperme, plus ou moins de masse musculaire, de poils et d'érection. Être sexué femme, c'est avoir un appareil génital féminin, des seins, des règles durant la période de fécondité, la possibilité d'allaiter les enfants que nous mettrons éventuellement au monde, et la certitude d'une ménopause plus ou moins sympathique, et qui le serait sans doute davantage si elle n'était pas assimilée à une forme de date de péremption qui témoigne d'un amalgame entre féminité et maternité. Il est vrai qu'une femme peut éventuellement faire des enfants. C'est d'ailleurs le cas pour un homme aussi. Cela étant, le fait qu'une femme puisse porter un enfant et lui donner naissance ne fait pas d'elle une mère, mais une génitrice. De même, le fait qu'un homme puisse transmettre son patrimoine génétique via son sperme ne fait pas de lui un père, mais un géniteur. Devenir mère, comme devenir père, ce n'est pas fabriquer un enfant, mais c'est l'éduquer, pour qu'il ne soit pas seulement un mammifère bipède, mais un être humain. C'est cette distinction entre mammifère bipède et être humain, c'est cette dimension symbolique que les pouvoirs autoritaires, qu'ils soient en effet au pouvoir ou qu'ils soient rampants, qu'ils soient bien pensants ou ouvertement fascisants, ont une très fâcheuse tendance à oublier. On ne naît pas humain, on le devient. La proposition aujourd'hui encore peut déclencher des réactions épidermiques tant on tient pour acquis que le bipède serait naturellement un humain. Or, le bipède ne devient humain qu'à accepter dans sa chair son irréfragable incomplétude. Sexué homme ou femme, séparé à jamais de l'immédiateté avec les choses par la magie noire du langage, le bipède fait l'expérience douloureuse d'une totalité qui lui est refusée. Adieu la fusion, que ce soit avec son sexe, avec son époque, avec son identité, avec son immuabilité, avec les autres ou avec les choses. L'être humain est celui à qui la totalité est refusée. L'être humain est celui qui n'est jamais entier. Et c'est là qu'il devient primordial de réfléchir sur le masculin et le féminin comme catégorie philosophique. Or, bien que la philosophie se soit extrêmement peu penchée sur ces notions, le féminin et le masculin sont des catégories philosophiques et non pas biologiques ou sociales. S'il est nécessaire de ne pas confondre femme, mère et génitrice ou homme, père et géniteur, il est encore plus important de définir le masculin et le féminin. Ce que les études de genre manquent, retombant malgré elles dans des stéréotypes, parce qu'elles ne le définissent pas tout à leur légitime souci de déconstruire les amalgames entre femme et féminité, homme et virilité. La polémique entre sexe et genre dénonce un monde, il est vrai, trop souvent encore patriarcal. Mais elle ne permet absolument pas de penser le masculin et le féminin comme catégorie philosophique. S'il est vrai que ces notions sont particulièrement complexes et particulièrement sujettes à confusion, elles sont pourtant essentielles à qui veut essayer de penser les rapports de domination. Or, la réflexion sur ces rapports de domination est aujourd'hui si largement focalisée sur les rapports de domination des hommes sur les femmes qu'elle passe à côté de l'essentiel de la question, à savoir la domination du masculin sur le féminin. La réflexion sur le colonialisme, domination par la force de la culture européenne puis américaine sur le reste du monde, enrichit fort à propos cette recherche. Elle est nécessaire, mais elle ne suffit pas non plus. Or, cette confusion entre ces notions fait le jeu des pouvoirs autoritaires qui se fondent sur un monde de plus en plus exclusivement masculin, c'est-à-dire un monde où l'être humain, qu'il soit homme ou femme, qu'il réponde ou pas aux stéréotypes de genre, serait réduit à son unique côté masculin, c'est-à-dire à ce qui se voit, ce qui agit, ce qui s'exprime et ce qui se contrôle. Or, chaque être humain est constitué par une tension entre deux appétences, l'une vers l'action et la production de biens, d'idées, de discours, et l'autre vers l'ineffable, l'indéfinissable et l'altérité. C'est l'appétence de chaque être humain vers l'extériorisation de ses possibles que j'appelle masculin. Et c'est l'appétence de chaque être humain vers l'ineffable et ce qui échappe à tout contrôle que j'appelle féminin. Vous voyez bien pourquoi il est nécessaire de ne pas confondre le féminin avec la femme, car il serait fort dommage et tout à fait faux que les femmes dussent être réduites au silence et les hommes à l'action. Il serait fort dommage et tout à fait injustifié que les femmes, qu'on ferait alors les uniques porteuses du féminin, ne puissent exprimer et réaliser leur puissance, et que les hommes, qu'on ferait les uniques porteurs du masculin, soient privés de leur intériorité. Ce serait injuste, réducteur et faux. Dans un tel monde, dans un monde résolument tourné vers l'action et la production de biens, d'idées et de discours, où le masculin, c'est-à-dire précisément cette appétence à l'action, à l'expression et à la production, serait assimilé aux hommes, il ne faudrait pas s'étonner, d'une part, que les femmes soient invisibilisées, ce qui est souvent le cas, et d'autre part, que pour chaque être humain, tout ce qui échappe aux définitions, aux mesures et aux commercialisables soit férocement combattu. C'est pourtant malheureusement vers là qu'on se dirige, et c'est ce contre quoi il convient de lutter sous peine de perdre une part primordiale de notre humanité. Car ce féminin, c'est-à-dire cette part de chacun de nous qui échappe, c'est ce vide à partir duquel nous créons. Et ce masculin, ce sont les créations que nous parvenons à réaliser. Chaque être humain, pour devenir humain, a à articuler en lui le masculin et le féminin, c'est-à-dire ce qui existe et ce qui est. On est loin des stéréotypes de féminité et de virilité. Si masculin et féminin sont inassimilables l'un à l'autre, il ne reste pas moins que l'un ne peut aller sans l'autre, tant il est vrai que nous sommes cette richesse infinie qui navigue entre puissance et réalisation, être et existence. C'est cette complexité, définitivement opaque comme en témoigne la fin de cette chronique qui échoue évidemment à dire, qui fait notre humanité. Une rencontre impossible et pourtant nécessaire. Peut-être est-ce cela que poursuivent, toujours voués à l'échec, l'art et la spiritualité. Peut-être est-ce cela à quoi on donne, faute de mieux, le nom d'amour. I've got people.